di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore.
Bonjour à vous, auditeurs et auditrices de Radio Galère. En studio, ce matin, nous accueillons des élèves d'une classe de sciences économiques et sociales du lycée Saint-Charles, accompagnés de leur professeur Michel Potoudis pour une heure de libre débat. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Pour cette première demi-heure, le thème que vous avez choisi est le suivant, hommes, femmes au lycée et plus largement dans la société. Quelle place pour l'un et pour l'autre? Quelle relation entre les sexes? Quels stéréotypes persistent? On va échanger autour de tout ça. Autour de la table pour aborder ces questions.
Michel Potoudis, le professeur.
Maïsen,
Ryan,
Zoé,
Théotime,
Victor,
Artem,
Robert.
Bienvenue. Donc rappelons le déroulé de ce débat à nos auditeurs et auditrices. Au centre du plateau radio, un chapeau, des questions, citations ou autres que nos lycéens vont piocher et lire pour ensuite en discuter. Donc n'hésitez pas aussi à intervenir librement. Et on va commencer par écouter une petite chronique ou billet, je ne sais pas, de Victor qui a préparé ça, donc on t'écoute.
Pour introduire notre sujet sur les relations hommes et femmes, il est nécessaire de parler, je crois, de la place de la femme dans l'histoire. La femme a toujours été considérée comme un sexe faible dans la logique chrétienne et occidentale, malgré la représentation du salut de l'humanité par Marie. On peut commencer à rader son histoire à partir de l'Antiquité. Les sociétés préhistoriques, souvent matriarcales, laissent place à des sociétés où le pouvoir politique et social est exercé par l'homme. Dans l'Antiquité, la femme est déclarée mineure vis-à-vis de la loi. Elle ne possède donc aucun droit. C'est d'après sa faiblesse d'esprit que les Grecs et les Romains en tirent ces conclusions. Elle ne peut donc participer à la vie de la cité. Au Moyen-Âge, les femmes chrétiennes demeurent exclues du champ et de l'activité politique. La femme doit être une bonne mère, une bonne épouse. Elle doit être pudique et soumise à l'homme. Par exemple, elle doit baisser les yeux à la vue de son regard. Et surtout, elle ne peut monter sur le trône, ce qui engendrera d'ailleurs de nombreux conflits. La déchristianisation de la société modifie la vie de la femme au quotidien. Par exemple, en 1791, Olympe de Gouges dira dans un débat face à Maximilien de Robespierre « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Elle est guillotinée en 1793. Elle écrira d'ailleurs la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Après avoir été l'appareil de production de l'Europe pendant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, après les souvenirs de ses droits évoqués pendant la Révolution de 1789, la femme se soulèvera et obtiendra en 1944 le droit de vote en France, c'est-à-dire 151 ans plus tard, après le passage Olympe de Gouges sous le couperet de la guillotine. Aujourd'hui, les inégalités persistent, mais se réduisent, et doivent se réduire, car enfin, la femme est l'avenir de l'homme.
Bravo !
Waouh !
Est-ce qu'il y en a qui souhaitent réagir autour du plateau
Ben, c'est de là que viennent les stéréotypes, en fait. Genre, on voit au début que tout ce que tu disais par rapport aux femmes et avant, c'est ça pendant le christianisme. Ouais. Ben, en fait, c'est les stéréotypes qu'on dit sur la femme aujourd'hui, ben, ça vient de là, en fait.
Ah, donc, à travers l'histoire, en fait, c'est à travers l'histoire que les stéréotypes se sont construits. Et encore aujourd'hui... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a toujours ces stéréotypes ou ça a évolué?
Oui, il y a des inégalités, même si elles sont moins marquées. Par exemple, au travail ou même dans la relation, il y a énormément de violence envers les femmes aujourd'hui qui persiste. Il y a, je crois, une femme qui meurt tous les 3 jours. Et ouais, on voit que c'est encore marqué, quoi. Tout ça avec la religion au départ, même si c'est pareil d'ailleurs. Je pense que les inégalités... deviennent de moins en moins fortes, aussi parce que la religion est de moins en moins forte. Il y a de moins en moins de gens qui sont chrétiens, par exemple.
Pour toi, du coup, les inégalités, elles viennent d'abord des religions.
Ouais, enfin. Principalement, je pense. Ouais.
Et les autres pensent aussi que les religions, c'est ça qui continue un peu... qui fait que les stéréotypes persistent.
Oui.
Allez-y. Oui. Ouais, on peut commencer du coup. Un de vous peut tirer une question. Donc il y a deux chapeaux et c'est des questions sur le thème. Donc n'hésitez pas. Ouais.
Un garçon costaud pour m'aider à déplacer cette table, s'il vous plaît. Et vous, entendez-vous ce type de phrase au lycée?
Oui. Oui, on l'entend des fois. Enfin, au lycée, peut-être pas, mais ouais, genre, je l'ai déjà entendu, ouais. Une fois qu'il... ouais, j'ai pas l'exemple vraiment en tête, mais oui, on l'a déjà, je l'ai déjà entendu.
Et ça, du coup, c'est plutôt un stéréotype de quel type de quel,
Ben, que l'homme a la force, en fait.
Mm. C'est plutôt des petites phrases, en fait, qu'on pense comme ça... anodine, qu'on dirait peut-être, je sais pas toi si Michel, est-ce que tu as déjà prononcé ce genre de phrase?
J'ai déjà prononcé ce genre de phrase et j'ai souvent entendu qu'on me sollicite parce que j'étais un homme.
Donc, quelle est la réaction du coup, par exemple, pour les garçons quand on dit ce genre de phrase que vous dites oh, pourquoi toujours moi, pourquoi pas une fille?
Moi je pense déjà que avec ce genre de phrase au quotidien, ça montre bien que les stéréotypes sont bien ancrés, que quand on parle de ça au quotidien, des petites phrases comme ça, ça montre que c'est bien naturel. Quand on parle comme ça, on dit quelques phrases, oui, je peux t'aider, etc. C'est tellement naturel que ça montre bien que c'est ancré, quoi. Que ces stéréotypes sont marqués et que, ouais, c'est...
On continue ? Ouais, vas-y.
C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui l'a séparée du mâle. C'est par le travail que peut seul lui garantir une liberté concrète, de Simone de Beauvoir.
Alors, est-ce que le travail vous libère ou vous libérera?
Bah, dans certains pays, déjà, il y a la femme qui n'a pas le droit de travailler, donc oui, c'est sûr que c'est une sorte de liberté de la femme.
Puis surtout, il y a quelques années, enfin, il y a quelques dizaines d'années, la femme devait demander à son mari pour travailler, parce qu'elle n'avait pas la permission de travailler toute seule.
Et pour retirer de l'argent, pour pouvoir sortir dans la rue aussi.
Et puis, même aujourd'hui, il y a des inégalités au niveau du salaire, encore, qui persistent. On voit qu'une femme, elle peut avoir exactement le même métier qu'un homme. Bon, déjà, ce qui est plus rare, parce qu'on voit que, principalement, je crois, hiérarchiquement, c'est les hommes qui sont souvent plus hauts que les femmes. Donc déjà, ça, c'est inégal. Et en plus, ouais, on voit bien que le salaire est inégal. Pourtant, ils remplissent les mêmes fonctions, parfois. Et ils sont autant productifs, quoi.
Oui, sur le site Le Monde, j'ai vu que le revenu salarial des femmes en 2014 était de 24% moins qu'un homme. Oui. Que reçoit un homme.
On peut parler des sacrifices que les femmes font au travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait, par exemple, de renoncer à une carrière, ou bien d'être plus souvent à temps partiel, ou bien de prendre plus souvent que les hommes des congés parentaux?
Moi, je pense que les femmes s'auto-censurent beaucoup, en fait, dû à leur éducation. On leur a inculqué souvent que, justement, avec les phrases qu'on a vues pour les tables et les garçons, que les femmes n'avaient pas forcément la possibilité de faire tout ce dont elles seraient capables. Et elles ont souvent tendance à se sous-estimer, à penser que, ouais, elles sont moins fortes et que, même si... elles ont les compétences que, quelque part, en fait, non, ça ne marchera pas pour elles.
Et par exemple aussi, je ne sais pas si vous êtes, si vous êtes au courant, au mois de novembre, je ne m'en souviens plus du jour exactement, mais symboliquement, il y a un jour, en fait, où les femmes, une heure précise, où les femmes ne travaillent pas ce jour-là, en fait, parce que si on cumule, en fait, c'est au niveau du nombre...
C'est le nombre de jours de travail gratuit qui suit, pour tenir compte de l'écart de salaire, de rémunération entre les hommes et les femmes.
Et c'est mi-novembre, il me semble. Donc il y a bien un mois et demi sur l'année, en fait, au final, où on peut dire que les femmes travaillent gratuitement, dû à cet écart de salaire. Mmh. Quand même assez énorme. Et aussi... je vous entendais parler... c'est vrai que là, on parle pas mal des inégalités de femmes, mais... Enfin, les hommes, il y a quand même aussi des inégalités, peut-être, ou je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je sais pas trop, on n'en parle pas énormément, je trouve. C'est vrai que la violence contre les hommes, peut-être que, oui, il y a aussi des hommes qui se font maltraiter, c'est sûr. Mais je pense que c'est plutôt l'inverse. En tout cas, on en parle très rarement de la violence faite aux hommes. Et, je sais pas...
Et est-ce qu'on devrait plus en parler, vous pensez?
Je pense pas vraiment, parce que je pense que c'est vraiment les femmes qui subissent plus que les hommes au quotidien.
Mais est-ce que c'est dur d'être un garçon aujourd'hui par rapport aux filles, étant donné des exigences qui n'existaient peut-être pas par le passé?
Je sais pas.
Allez-y. D'ailleurs.
Tu es en apprentissage.
Voilà, je suis en apprentissage, c'est ça.
De toute façon, ne pas savoir ou ne pas avoir de réponse, c'est déjà une réponse. Hein. Ça veut déjà dire quelque chose. Hein.
C'est vrai.
Eh bien, qui veut lire, tirer une question?
Non, la place de la femme n'est pas plus au foyer qu'ailleurs, comme celle de l'homme. Elle est partout. Partout où son activité peut et veut se déployer. Pourquoi? De quel droit l'enfermer? La parquer dans son sexe? Transformer, qu'on la veuille ou non, en profession, pour ne pas dire en métier? Jules Gueude, 1845-1922. Les femmes au foyer, les hommes au travail, encore d'actualité.
Jules Guesde est un militant socialiste révolutionnaire. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
La parole d'un homme, du coup.
Oui.
Oui, moi j'en parle.
À mon avis, les femmes restent toujours devant le foyer. Ils gardent le foyer de la famille. Lorsque les hommes ils vont au travail, peut-être en France c'est un peu différent par rapport aux autres pays, par exemple d'où je viens. En Russie, normalement les femmes gardent le foyer, ils gardent les enfants, et les hommes ils vont au travail.
Et est-ce que ça, enfin, les femmes ou les hommes ont envie que ça change en Russie, ou c'est accepté par tout le monde?
Je pense que les femmes, ils ont, s'ils ont envie d'aller travailler, ils vont aller, mais ils ont, même les femmes, ils ont un stéréotype qu'il faut rester dans la maison et garder les enfants.
Ah oui, c'est comme tu disais aussi, c'est tellement finalement ancré, enfin, disons que même les femmes intériorisent en fait la pression de la société et le rôle qu'elles doivent jouer dans la société. Et donc finalement, même si elles pourraient peut-être aussi se décharger d'un certain poids, de certains rôles et tâches, elles continuent quand même à accepter ce rôle qu'on donne.
Mais c'est dur d'être mal vu des fois par la société. C'est compliqué quand même.
Oui, pour en revenir au sujet d'avant, si on peut.
Ouais.
Oui, c'est,
bien sûr.
C'est pour, par rapport aux hommes, on voit de plus en plus des hommes au foyer. Ça dont je voulais parler, c'est qu'il y a quand même une évolution, même si c'est minime. On voit parfois des hommes au foyer. Et une autre chose, c'est par rapport à la garde de l'enfant aussi. Parce que ça, c'est, je pense, une des choses qui reste inégale. C'est que du coup, dans les stéréotypes, et j'ai envie de dire parce que naturellement, la femme... pendant 9 mois, fabrique le bébé. Donc après, elle est attachée à lui. Et donc c'est normal qu'elle soit plus proche et qu'elle s'en élève. Elle l'élève. Mais d'un autre côté, l'homme, souvent, a du mal à avoir la garde, par exemple, de son enfant. Moi, je suis un peu... Enfin, je connais ça. Et c'est vachement inégal, quoi. Souvent, les hommes ne peuvent pas avoir leurs enfants au moins. Et c'est compliqué.
C'est 4 fois sur 5 la femme. Mais actuellement, les juges essaient de donner l'alternance. C'est compliqué à mettre en place, mais ils essaient. Donc c'est un des points qui évolue un peu.
Par exemple, pour en revenir sur le sujet, au second tour de la présidentielle, il y a quand même Marine Le Pen qui a accédé au second tour. Et Marine Le Pen a quand même proposé de donner un salaire aux femmes pour qu'elles restent au foyer. Donc on observe quand même qu'il y a une conservation et un voulu de conserver les stéréotypes dans notre société. Et c'est quand même assez hallucinant, moi, je trouve.
Et est-ce que, du coup, les femmes qui sont autour du plateau, la place des femmes au foyer, ça vous parle ou, je sais pas. Ça peut être un choix aussi, des fois.
Bah, en France, je trouve que ça évolue quand même. Je ne connais pas trop de mères au foyer, mais ça existe quand même beaucoup. Mais par exemple, dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne, je sais que les mères, c'est mal vu de travailler quand on a un enfant. Et c'est mal vu de travailler et de laisser son enfant à une nourrice ou à une crèche. C'est, voilà. Donc ça dépend aussi des pays.
À partir du premier enfant.
Oui.
Donc, à partir du premier enfant, en Allemagne, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent de travailler.
Bah maintenant, ça s'atténue un peu, mais c'était un stéréotype qui était très, très ancré.
Par exemple, moi, je viens d'Arménie. Et en Arménie, quand vous êtes petit et tu es une fille, on t'éduque que quand tu vas grandir, tu vas garder tes enfants. Et il faut que tu restes à la maison, tu les éduques et jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu plus grands. Et après, tu pourras aller travailler.
Et du coup, c'est les hommes qui... le père qui va travailler...
Oui, c'est exactement ça. Le père travaille, le père apporte l'argent et la mère éduque les enfants.
Et est-ce que du coup, en tant qu'enfant, on se sent plus proche naturellement de sa mère parce qu'on a été élevé plus par elle, on a passé plus de temps avec elle?
Oui, je pense que naturellement, les filles sont plus proches avec les mamans qu'avec des papas.
Et les garçons?
Les garçons plutôt avec leur père.
Ah oui, d'accord.
Mais ça revient à ce que disait Théotime. Normalement, naturellement, les enfants, ils sont plus attachés à leur mère parce qu'ils ont grandi dans leur ventre et tout. Mais après, ce qui suit, c'est que quand l'enfant grandit et tout, il prend les stéréotypes sans le vouloir, mais c'est la société qui le veut aussi.
Oui, parce que voir sa mère au foyer toute son enfance et voir que son père travaille, c'est-à-dire qu'on a déjà dans la tête que c'est un peu normal quelque part, puisqu'on l'a toujours vécu.
Oui, c'est sûr, si on n'a pas d'autres modèles autour de nous, ça nous influence, même inconsciemment. Allez, un autre. On se bat pour choisir qui va tirer un papier.
Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. Michel de Montaigne.
Au XVIe siècle, hein. Il dit ça au XVIe siècle. Alors, refusez-vous les règles? Les garçons, avez-vous l'impression que les règles sont faites par les garçons?
Oui, au départ, oui, je pense. Parce qu'avant, c'est les hommes qui dominaient, principalement. Mais maintenant, on va dire au niveau des lois, il y a une parité qui est mise en place. Alors, je sais qu'elle n'est pas tout le temps respectée, mais par exemple, je sais que si elle n'est pas respectée, il y a des amendes. Bon, souvent, elles sont payées, du coup, il n'y a pas de parité, mais c'est déjà ça. Donc, je dirais que c'est encore les hommes qui choisissent plus, mais qu'il y a quand même des femmes en politique, des femmes au Sénat, des femmes de plus en plus.
Voilà. Moi, je sais qu'en Algérie, en fait, on dit souvent que... un homme, on dit souvent c'est l'homme de la maison. Et en fait, ça veut tout dire, en fait. C'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui choisit entre guillemets, l'avenir de ses enfants, tout, en fait.
Ce qui peut être un poids aussi pour l'homme. Enfin, c'est quand même beaucoup de responsabilités, non?
Ouais, mais après, c'est en train de changer petit à petit. Mais je sais quand même que ça change doucement, en fait. Du coup, c'est ça le plus triste.
Et puis il y a des règles qui sont ancrées, il y a des règles qui sont qui ont, par exemple, la parité, ça a été mis en place pour améliorer les choses, mais il y a aussi des règles qui sont internes à la société que on n'a pas forcément le recul pour les contredire et pour les dépasser.
T'as un exemple?
Par exemple le fait d'aller travailler pour une femme. Comme avant, c'était carrément interdit, mais maintenant, il y a quand même de l'autocensure, il y a quand même autre chose que les femmes n'arrivent pas à dépasser. Elles sont leur propre ennemi, quelque part.
Rebellez-vous, les femmes.
Allez-y.
N'hésitez pas, il y a plein d'autres questions. Donc, si vous voulez, vous pouvez même passer certaines questions.
Pour continuer à ça, ouais. À tout ce qui est l'autocensure, avec... par exemple, dans la bataille pour les femmes, le balance ton porc, qui était très connu. Ça, ça montre bien voilà. Ça montre bien l'évolution et le fait que les femmes, ça y est, se battent. Allez-y. Ouais.
Femme, réveille-toi, comme disait Olympe de Gouges.
Est-ce que ce mouvement MeToo, tout le battage médiatique autour, ça change un peu les choses pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que, y compris au lycée, ça change le regard et les relations entre les garçons et les filles?
Je pense que ça change un peu quelque part, mais déjà, je pense qu'il y a eu énormément de... C'est très controversé, le mouvement Balance ton port. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à Balance ton port en disant que quand même, c'était c'est très choquant de rompre le terme, tout ça. Et du coup, je pense que ça n'a pas changé tant de choses que ça. Peut-être que ça a libéré un peu la parole des femmes dans certains milieux, mais pas forcément partout et pas forcément pour tous les âges. Du coup, je sais pas.
Enfin, le non-violent, mais je suis désolée, mais ce qu'elles subissent aussi, c'est violent. Donc bon, ça rejoint.
Oui, c'est sûr, mais il y a des gens qui trouvent que balance ton porc, par exemple, c'est une mauvaise formulation, ou je sais pas, enfin, c'est pas la formulation qui compte. Mais...
Bah, du coup, ouais, en fait, oui, balance ton porc, la version française, c'est vrai qu'elle est plus dans la dénonciation, l'idée de vraiment dénoncer les garçons, alors que la version anglaise, Me Too, c'était plus sur l'empathie, c'est-à-dire moi aussi, j'ai vécu, donc c'était plus du côté de la victime. J'ai aussi vécu la même chose. Et au final, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait plus de plaintes, mais que ça n'a pas changé dans le sens où elles sont pas... Enfin, il n'y a pas forcément plus de condamnations. Ouais. Une autre question ou quelque chose à... Quelqu'un...
Alors, 60% des femmes cadres estiment être moins bien payées que les hommes en France.
Donc ça, ouais, on peut passer. Ouais, on a déjà un peu discuté de l'écart salarial. Il y a d'autres questions là. Ouais, dans le...
Filles et les garçons, sommes-nous traités, considérés de la même façon au lycée?
Alors là...
Alors, comment vous sentez-vous traités au lycée, autant par nous, les profs, que par l'administration, que par le système, et entre vous?
On n'a pas vraiment l'impression d'être traité différemment, mais je pense que dans les faits, on l'est peut-être un peu, mais c'est peut-être pas si visible que ça.
Moi, je suis d'accord. Je trouve qu'on est traité de la même façon. Oui, ça a évolué, je pense aussi. Bah, avant, y avait école fille, école garçon, par exemple. C'était marqué. Et encore aujourd'hui, il y a ça, j'ai vu au Japon. Ou en Chine, je crois, où dans les écoles, les filles ont des cours de cuisine supplémentaires, par exemple, et les garçons, c'est plus... l'école, c'est peut-être plus le sport. C'est encore marqué, mais ça a beaucoup évolué, je pense, en France, en tout cas. L'éducation nationale, au moins, il y a ça qu'on ne peut pas lui reprocher.
Voilà. Je pense, en fait, que c'est pas forcément comment le lycée nous traite, mais c'est comment on se traite dans le lycée nous-mêmes, en fonction de si on a un garçon ou une fille, par exemple, les filières. Ça montre beaucoup que les filles ont du mal à se diriger vers la S et que les garçons ont quand même plus de facilité à aller vers la S. Et en L, par exemple, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc je pense que c'est beaucoup de... Pareil, de règles implicites.
Et avec la réforme du bac, ça va changer peut-être?
On ne sait pas.
On va voir. Pas pour nous, mais pour les prochains peut-être.
Donc, là, c'est super, à mon avis, de mettre l'accent sur l'orientation scolaire et professionnelle différente des garçons et des filles. Il y a un autre aspect. On a reçu une sociologue il n'y a pas longtemps qui disait, en classe, les filles demandent moins ou prennent moins la parole que les garçons. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que ça, c'est un stéréotype et c'est quelque chose qui est ancré de base dès l'enfance, dès qu'on est élevé, c'est-à-dire que avant, les filles et les femmes avaient moins le droit de parole, par exemple à table, c'était très silencieux, mais elles avaient moins le droit de parole par rapport aux hommes, et peut-être que ça s'est resté ancré et que en cours, encore aujourd'hui, je le constate pas énormément, mais du coup encore aujourd'hui, peut-être que les filles parlent moins. On voit souvent les filles, enfin de moins en moins, je pense, mais sont plus timides ou voilà, c'est un truc qui les définit un peu, qui parlent moins ou qui sont voilà un peu plus timides, un peu plus renfermés. C'est peut-être ça aussi qui agit sur le fait qu'elles ne participent moins, elles ne participent pas en classe.
Mais c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, ça veut dire que en fait on s'en rend pas compte, mais mais c'est sûr qu'il y a des différences entre les au lycée entre les filles et les garçons, mais en fait c'est tellement ancré et nous on s'en rend pas compte, en fait on le ressent pas.
Personnellement, si je ne parle pas vraiment en cours, c'est pas parce que je suis une fille. Je vois vraiment pas la différence. C'est juste que oui, c'est vrai. Moi, toute ma scolarité, il y a eu plus de garçons qui ont parlé, qui ont participé à l'école que les filles. Mais moi, je trouve pas que c'est un rapport avec le sexe de la personne. Et moi, c'est pas du tout parce que je suis une fille que je ne parle moins en classe. Ça a aucun rapport. Pour moi, l'école, la classe, les études et tout, ça n'a aucun rapport avec le sexe ou le genre de la personne.
Mais il y a quand même une réaction des profs qui peut être inconsciente, mais qui montre quand même ce sexisme, entre guillemets. Une fille indisciplinée, ou qui va prendre la parole comme ça, sans la demander, j'ai quand même l'impression que les profs vont avoir tendance à rejeter ça un peu plus violemment qu'avec des garçons. Parce que chez des garçons, on pourrait peut-être penser que l'indiscipline, voilà, il se révolte, c'est un homme, c'est viril, ou je sais pas. Donc ça, je pense que ça joue déjà sur le taux de parole.
En fait, je pense que c'est acquis par les professeurs que les garçons ont besoin de s'exprimer, qu'ils ont besoin de faire du bruit et que c'est dans leur nature de prendre la parole et d'être un peu virulent. Et les filles, on attend beaucoup plus d'elles qu'elles soient studieuses et qu'elles prennent la parole que de manière extrêmement, extrêmement sensible et intelligente. Et du coup, je pense que c'est différent, ouais.
Témoignage de prof, quand on a envie d'inverser les choses, c'est difficile, parce que justement, elles sont très fortement ancrées. Mais on peut avoir envie de les inverser, bien sûr.
Pensez-vous que votre sexe influence sur vos choix professionnels?
C'est ce que tu as abordé tout à l'heure sur l'orientation scolaire. On peut peut-être prendre une autre question.
À qui de faire le premier pas?
Alors, la drague, les rencontres, à qui de faire le premier pas?
C'est quand même, oui, dans la drague, les sexualités, les stéréotypes sont aussi quand même bien, bien présents. Bon, vous avez le droit de prendre une autre question si vous ne sentez pas de parler sur ce sujet. Mais simplement, voilà, pour vous, à qui de faire le premier pas?
Je pense que y a un problème dans la relation, entre guillemets, aujourd'hui, où l'homme... Enfin, il y a un blocage de plus en plus. Et c'est peut-être... Enfin, il est créé par quelque chose de positif, je pense, dans le sens où avant, les hommes étaient galants, voilà. En fait, ils attiraient la femme, voilà. Et au final, c'était pour qu'elle travaille à domicile et qu'elle soit un peu... Mais oui, c'était un peu ça, quoi. C'était un système un peu...
C'était un piège.
Les hommes étaient hypocrites, prévenants pour mieux asservir les femmes. Voilà, voilà ce que je pense, c'est quand même... Mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il y a quand même une relation plus simple et je pense que ça a évolué, mais aussi en mal. Et par exemple, pour en venir à un autre sujet, qui est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la relation, elle est de plus en plus virtuelle. Et ça, c'est vachement négatif dans la relation. Il n'y a plus d'interaction dans un couple, par exemple, ou même il y a des stéréotypes et... Parfois, par exemple, je sais pas, dans une soirée, les cinq peuvent rester sur leur téléphone. Ça, c'est un exemple souvent pris, mais où voilà, les cinq sont sur leur téléphone, ils se parlent pas, ou même ils se parlent par message. Donc, ça montre bien que la relation, elle est de moins en moins importante.
Le problème aurait changé. C'est plus qui fait le premier pas, mais c'est il faut faire le premier pas.
Ouais, c'est ça, je pense.
Ouais, on continue. Alors.
Un homme peut-il être féministe?
Bah oui. Il peut être pour les droits des femmes, bien sûr.
Bien sûr. Je pense que même aujourd'hui, c'est presque obligatoire. Enfin, si on est mal vu, si on n'est pas pour les droits des femmes, comme pour le droit des hommes.
Alors après, moi, je pense qu'il y a un bon féministe, un bon féminisme et un mauvais féminisme. C'est-à-dire qu'un bon féminisme, pour moi, c'est l'égalité complète des sexes. Alors que maintenant, on voit de plus en plus des gens qui se disent féministes et qui, en fait, des femmes principalement, qui veulent à tout prix être supérieures à l'homme, le girl power intensif. Hein, je pense que ça devient un petit peu extrême. Et du coup, ça donne une mauvaise image du féminisme en général. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je pense que c'est quand même vachement minoritaire. Hein. Moi, j'en ai jamais entendu parler, personnellement. Donc, je pense que... Non, je ne pense pas que ça existe énormément, ça. Enfin, ou alors, c'est exagérer le trait pour peut-être marquer plus le coup, pour plus attirer l'attention. Mais je ne pense pas que dans le combat, il y ait vraiment des gens qui veulent être supérieurs à l'homme, parce que ça n'a pas vraiment de sens, de toute façon, mais...
Ouais, mais je parlais plus dans le sens où... enfin, c'était pas vraiment être supérieur, mais vraiment, par exemple, aujourd'hui, on crie de plus en plus au sexisme dès que, par exemple, la drague dans les bars, enfin, je veux dire, maintenant, si on fait ça, il y a beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de filles qui disent...
Parce qu'en fait, on vient de faire la différence entre la drague consentie et la drague pas consentie. Et en tant que fille, on peut remarquer quand même quand est-ce que ça va dans le respect de l'autre et quand est-ce que c'est quand est-ce que la personne franchit la barrière de enfin des fois on met un stop et c'est pas entendu. Donc je pense que c'est pour ça que maintenant on appuie sur ce point, c'est parce que on a fait la différence entre les deux.
Je suis d'accord avec toi.
Mais justement, on parlait de MeToo tout à l'heure. Il y a eu une réaction en France quand même assez particulière, assez singulière. C'est la réaction de l'actrice Catherine Deneuve. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a réagi en fait en publiant avec d'autres personnalités. Une tribune, je ne sais plus dans quel journal, mais...
c'est Le Monde.
Le Monde, oui. En, finalement, prenant un petit peu la liberté d'importuner, donc ça drague un peu des phrases un peu légères qu'on peut écouter dans la rue. Et il y a, de l'autre côté de l'Atlantique, des réactions aussi assez virulentes en disant que, finalement, les Français et Françaises étaient beaucoup moins... a eu des positions beaucoup moins extrêmes sur, justement sur le sujet et qu'elle faisait plus la différence, elle laissait passer plus de choses et que finalement pour se faire draguer ou écouter ce genre de phrase bonjour mademoiselle dans la rue, c'était pas forcément signe d'un sexisme ou d'un machisme
Mais c'est pas forcément le signe d'un sexisme énorme, mais c'est quelque chose qui traduit le fait qu'on on fait pas vraiment attention à ce que la femme pense, dans le sens où on l'importune sans lui avoir dit par avance je vais vous parler tout ça. Donc on part du principe qu'on a le droit d'importuner quelqu'un dans la rue sans se dire peut-être que lui ça le dérange, peut-être qu'elle a pas très envie de parler, peut-être que cette remarque qu'elle s'en passerait ou des choses comme ça.
C'est sûr, c'est pas agréable, surtout qu'on verra jamais le contraire, c'est-à-dire on n'a jamais entendu une femme parler à un homme dans la rue et enfin je veux dire c'est très souvent le contraire et c'est vrai que bah j'imagine que ici il y en a beaucoup qui ont subi ce genre de choses. Donc
puis ça réduit aussi la liberté dans le sens où on peut par exemple se demander quand on est une fille, est-ce que c'est ok si je sors à telle heure, dans telle tenue ou
exactement
avec qui, ça peut dissuader. Donc je pense que c'est pas forcément positif.
Moi, je suis d'accord. Moi ça me pose, enfin à chaque fois je me pose des questions. Enfin ça met des barrières quand on veut sortir ou ce genre de choses.
C'est vrai que ça revient souvent en fait ce genre de remarques et du coup ben ça sans réellement le savoir au départ et après on comprend en fait que si ça nous impacte parce qu'on commence même à se demander comment on s'habille ce jour-là pour sortir en fait, ça dépend où on sort et du coup par rapport au lieu où on va, comment on s'habille et c'est là où on voit en fait que ça impacte vraiment.
On va peut-être conclure parce que là finalement les 30 minutes se défilent assez rapidement, mais j'aurais juste voulu demander aux garçons si vous avez déjà été témoin de ce genre de scène dans la rue et si... Vous réagissez quand ça arrive ?
Oui, j'ai déjà été témoin de ce genre de scène où t'as un homme qui vient voir une femme qui l'aborde, quoi. J'ai déjà eu ça dans les bars. C'est pas je pense que c'est de moins en moins fréquent, parce qu'il y a aussi un blocage de plus en plus. Quand même, ça commence à évoluer, la place des femmes, et le respect qu'il y a envers les femmes, comme envers les hommes. Et du coup, je pense que c'est de moins en moins fréquent, mais oui, j'ai déjà vu ça, oui. Des hommes qui abordent les femmes, qui disent « on va boire un verre, machin », puis qui commencent à parler, ouais, c'est fréquent, je pense, de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit que les stéréotypes sont bien marqués, c'est-à-dire que ce sera jamais l'inverse, quoi. Ça, c'est carrément inimaginable que ce soit les femmes qui aillent voir les hommes, ça, ce serait bizarre, quoi.
On en revient un petit peu aussi à la question à qui de faire le premier pas. Merci beaucoup pour votre participation à tous et à toutes. Restez avec nous, auditeurs, auditrices de Radio Galère. On se retrouve après une musique, Princesse Annie, si j'étais un homme, pour la deuxième partie de débat.
Vas-y, dis-moi.
Ouais, par rapport à ma copine qui est soi-disant ta femme.
Ouais, comment ça, soi-disant ? Ouais, c'est ma femme.
Ouais, c'est ta femme et ouais. Tu la frappes.
Et alors, mais je la frappe, mais tu quoi ? Tu viens ici pour me dire ça ?
Ouais, je viens ici pour
tu
dire ça.
Tu crois que je sais pas que je la frappe ? Je la correctionne et alors ?
Et tu crois que c'est bien ?
Mais de quoi ? C'est comme ça, je la frappe, c'est comme ça.
Quoi ? C'est comme
tu
ça.
Tu sais t'es... ce qu'elle a fait ?
Et alors ?
Est-ce que tu sais
et
ce qu'elle a fait ?
Et alors, toi t'es un bonhomme, tu crois que tu sais bien de frapper une femme sans défense ?
Sans défense ?
Ouais, sans défense.
Sans défense ? Ouais. Sans défense, et alors ?
Elles sont toutes les mêmes, mis à part ma mère et mes sœurs. Si j'étais un homme, je me dirais que le sexe faible, mes cœurs. Regarde ce qu'elles sont devenues, le cœur impur, les mœurs dégradent. L'image de la femme de prostitution et de sexe en cas. Si j'étais un homme, est-ce que je me contenterais de ces propos? En me disant que l'émancipation s'est faite malgré nous trop tôt. Qu'il faut pas confondre les rôles des dominants, dominés, obstinés comme la MLF. Condamner cette gente à sa destinée. Est-ce que je viendrais sous-estimer celles qui se battent pour réussir? Qu'elles se fassent pas d'illusions sans passer sous un mec à coup sûr. Est-ce que j'interdirais à ma sœur de sortir le soir de peur qu'elle donne son cul ou finisse sur un trottoir? Est-ce que je parlerais d'embrouille? Pour prouver que j'ai des couilles, je serai le fier devant mes potes quand je raconterai que ma femme j'y mets des coups. Et plus je connais les femmes et plus c'est les chiennes que je découvre. Une meuf du move superficiel, matérialiste qui me prouve. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter, raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Serais-je comme la plupart homophobes? Est-ce que je suivrais la vie de l'opinion publique comme une mode? Je me dirais que leur comportement est plus qu'incohérent. Devant un mec qui en aime un autre, je peux être qu'un tolérant. Est-ce que macho signifierait que je représente la virilité? Le bac c'est ses conneries serait pour moi qu'une indignité. Est-ce que je serais à 100% contre celles qui veulent la parité? Qu'elles restent à leur place? Est-ce leur place c'est d'être femme au foyer? Est-ce que je refuserais d'obéir aux ordres de ma supérieure? Sans réel prétexte, juste pour mes principes et mes valeurs. Est-ce que j'admirerais ce mec parce qu'il enchaîne ta surcharge? Sur cette meuf qui fait la même, qui ne se regarde plus dans une glace? Aurais-je l'audace d'admettre que Princesse Annie sera mieux que moi? Ou je me dirais qu'elle a couché pour en arriver là?
Mais bien sûr, toutes les meufs couchent.
Mais vas-y, laisse tomber.
C'est une showbiz, showbiz.
Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter, raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. J'ève ma main sur ma femme pour la mettre ensemble. Est-ce que je lui dirais que c'est elle qui me fait perdre la raison? Est-ce que je glorifierais avec mes potes de faire des tourmentes? Est-ce que je dirais que c'est cette sale pute qui était consentante? Est-ce que je succomberais en soirée à cette meuf provocante? Jouer le mac et faire le canard avec ma femme dès que je rentre? Est-ce que je dirais que c'est belle et bien elle qui m'avait chauffé? Je suis pas coupable de viol et que c'est elle qu'on doit coffrer? Est-ce que j'aurais le trophée du beau gosse, du player? Et qu'en termes d'adultère, je serais fier d'être le meilleur? Est-ce que je lui dirais que je l'aime pour pouvoir la sauver? Quand elle me dira je suis enceinte, est-ce que plus qu'un va souvenir? Est-ce que je me dirais qu'avorte et t'assassinat d'un môme, je remettrais en question. Pas près d'être père d'assumer ce rôle si j'étais un homme. Est-ce que je penserais que la femme n'est rien sans l'homme? Ou au contraire que la femme est l'avenir de l'homme? Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter, raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Se dévouer, subir, subir. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire, suffire. Aimer, souffrir, se dévouer, subir, subir.
C'est quelques mots.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Galère en compagnie des lycéens du lycée Saint-Charles. C'est parti pour une deuxième heure de débat avec un nouveau thème intitulé « Lycéens, expression au sein de la société et dans l'établissement scolaire. De nouveaux élèves nous ont rejoints autour du plateau.
Bonjour.
Moussa.
Laurent.
Emmanuel. Philippe.
Eva.
Julia.
Zoé.
Théotime.
Et toujours avec leur professeur.
Michel Potoulis.
Bienvenue à vous. Toujours le même principe. Un chapeau au milieu, des questions à tirer au sort. La parole est à vous. Et on commence avec un slogan, un petit flashback dans l'histoire.
Alors on va partir d'un slogan de mai 68 et d'une réaction récente d'un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Le Goff, qui est un essayiste, qui a beaucoup écrit et qui a écrit un livre sur le malaise dans la démocratie. En 68, le slogan c'était « Sois jeune et tais-toi ». C'est un slogan qu'on retrouve sur une affiche où on voit une caricature de profil du général de Gaulle avec une grande oreille, avec un immense nez et puis une main qui vient fermer la bouche d'un jeune homme. Aujourd'hui, Jean-Pierre Le Goff réagit, il dit aujourd'hui ça serait plus tellement « Sois jeune et tais-toi », ça serait « Sois jeune et parle ». Comme si la parole des enfants, la parole des jeunes était une vérité absolue, comme s'il fallait absolument que les gens parlent. Alors, pour vous, c'est « Sois jeune et tais-toi » ou bien « Sois jeune et parle » ou bien encore autre chose ?
Petit moment pour réfléchir.
« Sois jeune et tais-toi » ou « Sois jeune et parle ». C'est vrai qu'avec le temps, on a cette liberté d'expression donc, comme revendication, pas seulement pour les jeunes, mais même en général, qu'on revendique de plus en plus, et aussi chez les jeunes, je ne pense pas que les jeunes s'intéressent plus aujourd'hui en politique qu'avant, je ne pense pas du tout que ce soit le cas, mais je pense qu'avec les avancées, donc avec le progrès technique, donc par exemple les réseaux sociaux, c'est facile de voir qu'on forme un groupe, qu'on n'est pas le seul à avoir des idées, et donc c'est plus facile de vouloir les revendiquer aussi. Donc je pense que les jeunes ont plus de facilité à s'exprimer aujourd'hui qu'avant, via les réseaux sociaux, mais il y a toujours des questions qu'on peut se poser quand même sur les grèves, le droit de grève pour les jeunes, parce que c'est quand même comme ça que s'expriment les citoyens aujourd'hui en partie en France, quand ils ne sont pas d'accord avec une loi. Donc je trouve que les grèves pour les lycéens, c'est intéressant comme sujet à aborder, je trouve.
Après, on peut aussi se demander si les jeunes sont assez matures pour pouvoir s'exprimer, parce qu'il faut quand même avoir une certaine maturité pour pouvoir parler de politique.
Et je pense que, par exemple, dans notre lycée, on a été victime de nombreux blocus, encore aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin. Et je pense que le fait de louper des cours, c'est presque un acteur principal, et que on oublie le... Pourquoi on milite, je pense.
C'est vrai que l'expression, c'est aussi... c'est marrant parce que vous avez tout de suite pensé à la politique, mais en même temps, mai 68, c'était un peu le contexte aussi. Mais on viendra d'ailleurs peut-être après sur le mouvement lycéen, tout ça. Tu parlais d'une certaine maturité qu'il fallait avoir pour s'exprimer, surtout en politique. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Et est-ce qu'il faut vraiment avoir une maturité, savoir s'exprimer, tout ça, pour parler de politique ? Et sinon, hors politique, est-ce qu'il faut vraiment avoir une maturité ? Enfin, quand tu dis maturité, du coup, j'imagine, c'est avoir certaines idées, formuler peut-être certaines idées et tout ça ?
Savoir de quoi on parle, tout simplement.
Moi, ouais. Il faut déjà être capable de comprendre ce qui se passe et d'être réaliste et pas être dans la tête dans les nuages. Et souvent, les jeunes ne sont pas forcément aptes à ça. Ils sont occupés à d'autres occupations, par exemple.
Mais je pense quand même que les jeunes de 16 ans sont conscients de ce qui se passe pour eux. Et c'est justement ça. Ils revendiquent pas, je pense, des choses pour les retraités. Les jeunes, ils peuvent, ils ont le droit. Mais c'est plutôt des choses qui les concernent. Et je pense qu'à 16 ans comme à 54 ans, on a conscience de ce qui nous arrive.
Ouais, moi aussi, je pense que là, on est à un âge, à 16 ans, où on est capable de réfléchir par soi-même, de prendre conscience et même de... Enfin, de prendre conscience de comment notre société fonctionne, etc. Et après, d'un côté, je pense qu'on est capable de faire ça, mais d'un autre côté, on n'a aucun cours, on n'a pas de... Comment dire ? On doit faire nos recherches de nos côtés, mais à l'école, on ne nous apprend pas du tout comment... par exemple, sur les partis politiques et tout ça, on n'a aucun cours sur ça, alors qu'on sait que dans 2 ans, on va voter. Et je pense que c'est super important aussi de... qu'on nous apprenne ça à l'école alors qu'on n'a rien, Alors que par exemple en Allemagne, ils ont des cours de politique où ils parlent des partis politiques, etc., ce qu'ils revendiquent et tout ça, alors que nous, on va voter et en fait, on ne connaît rien. Enfin, on n'a pas vraiment de cours sur ça.
Oui, je suis totalement d'accord. Et je pense d'ailleurs que dès notre enfance, on se fait influencer par nos parents. Et souvent, d'ailleurs, la plupart des gens, des gens quand on a 18 ans et qu'on se met à voter, on vote plus ou moins comme nos parents. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un point de vue subjectif sur les choses. Par exemple, comme tu l'as dit, un cours. Parce que nos parents ne sont pas subjectifs. Ils nous enseignent, ils nous élèvent de la façon dont ils pensent. Ils ne sont pas objectifs, oui, pardon.
Il faut avoir matière à débattre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les informations pour pouvoir se forger notre propre avis et pas avoir le même avis que nos parents, forcément.
Et moi, je pense aussi que la recherche de notre opinion politique, elle se fait tard, elle se fait pas pendant qu'on est en train de nous-mêmes nous rechercher, elle se fait pendant 20 ans, 25 ans, voire 30 ans. Je trouve que c'est beaucoup trop tard pour avoir une vraie opinion, pour pouvoir impacter la société.
Mais il y a quand même des choses qui vont nous toucher directement quand on voit les réformes du bac. Non, ça ne touche pas directement, ça va toucher ceux d'après, mais Parcoursup, par exemple, c'est des choses qui vont nous toucher. Et donc c'est normal de vouloir participer au débat sur ce sujet, d'exprimer son opinion. On le voit avec les manifestations qui ont lieu, les blocus, comme tu disais, Théotime. Il y a des revendications qui sont écrites, on a même dans notre lycée des instances, comme le conseil de vie lycéenne, dont certains élus ont même eu la chance d'aller à Paris et de rencontrer le ministre de l'Éducation, M. Blanquer. Donc il y a quand même une expression des lycéens. Enfin, moi, j'étais vraiment surpris quand j'ai su ça, c'est qu'il y a une expression. On est quand même écoutés, je trouve.
Et puis, pour en revenir peut-être juste à notre point de vue, avec tout ce qui nous entoure aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, les médias en général, nous influence tellement que avoir un point de vue objectif des choses, c'est très compliqué aujourd'hui. Et d'autant plus que quand on est jeune, on se fait influencer encore plus. Donc franchement, même d'ailleurs voter à 18 ans, je sais pas, c'est une bonne chose presque, on pourrait peut-être parler de ça, je sais pas. Parce que c'est quand même, c'est tôt quoi, et avec tout ce qui nous influence autour, c'est compliqué de savoir notre réel point de vue.
Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'on vote à 18 ans, aujourd'hui en France, mais parce qu'à 18 ans, on est touché pénalement et dans la vie de tous les jours, on a des droits et des devoirs en plus, mais à 16 ans aussi. Il y a plein de droits qu'on a à 16 ans en plus, pourtant on n'a pas le droit de vote à 16 ans.
Ouais, c'est vrai.
On peut aussi y penser à ça.
Justement, c'était une des questions qu'on vous avait proposées, c'était le vote à 16 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, ouais.
Bah après, je pense, enfin, j'ai vu qu'il y avait des politiques qui voulaient instruire le vote à 16 ans. Moi, je pense qu'à 16 ans, on est capable de réfléchir à tout ça. Mais d'un autre côté, comme on n'est pas vraiment informé, sans information, on pourrait voter pour... Comme disait Théotime, on pourrait être influencé par nos parents. Par contre, si on a vraiment des cours objectifs sur ça, moi, je pense qu'à 16 ans, on est capable de réfléchir et de penser pour notre société, quoi.
Ouais, je pense que on serait bien qu'on puisse voter à 16 ans, mais pas pour tout. Je pense qu'il y a... on ne devrait pas voter pour tout, mais pour certaines choses. Et d'ailleurs, on parle en ce moment, c'est dans les débats entre les Gilets jaunes et tout ce qui se passe, d'avoir un accès supérieur au vote, des référendums, etc. Donc je pense que ce serait bien déjà d'instruire ça, qu'il y ait des référendums, qu'on ait plus de choix, plus de liberté quant à ça, et aussi que du coup, à 16 ans par exemple, vu qu'il y a plus de votes qui existent, on en est, mais moins qu'à 18 ans. Par exemple, que selon les âges, on est à un nombre de votes différent à chaque fois. Parce que je pense qu'il y a des choses qui nous... Enfin, selon ce qui nous concerne, en fait. À 16 ans, on va voter pour ce qui nous concerne, et peut-être qu'à 18 ans, c'est d'autres choses qui vont nous concerner. Donc on vote pour des choses différentes, selon les âges. Je pense que ce serait bien.
Oui, mais pour pouvoir faire tout ça, je trouve qu'il faudrait d'abord impliquer les jeunes encore plus dans la vie politique, parce que je trouve qu'on est presque pas impliqué du tout et qu'on ne nous dit rien sur la politique à part dans les médias. Et donc, comme vous avez dit tout à l'heure, ce serait mieux de simplement créer un cours pour nous apprendre ça.
C'est comme ta camarade disait qu'effectivement, vous ressentez un manque d'informations sur ce qui se passe politique au lycée. Alors, quand il vous manque des informations, où est-ce que vous allez les chercher ?
On peut aller les chercher sur Internet. Il ne faut pas oublier, on a quand même ce moyen. Si on veut les avoir, on peut les avoir. C'est-à-dire que on le subit pas. Ceux qui n'ont pas envie, les ont pas. Mais si on a envie, on peut très bien aller sur Internet ou même demander à un professeur. Et c'est pour ça qu'à 16 ans, enfin, c'est pas parce qu'on a le droit de vote à 16 ans que toutes les personnes de 16 ans vont aller voter. Il y a aussi des gens qui font s'abstiner. C'est d'ailleurs aujourd'hui un gros problème. On a vu, il y avait 57,6% d'abstinence sur la France. Mais chez les 18-24 ans, il y a un taux de 70% d'abstention. Et ce serait peut-être que j'avais lu avant de venir, je sais plus le nom de la politologue, mais qui disait que plus on vote tôt, plus on est assidu à voter dans sa vie. Et que ça développe donc une vision positive du vote. Et dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un problème qu'on a. On peut pas le nier, ça.
Oui, mais les 70% qui votent pas, ils votent pas parce que ils ont pas envie de voter ou, enfin, je veux dire, ils votent pas parce que ils ont pas envie de réfléchir à ça ou c'est parce qu'ils sont mal informés par rapport à ça.
Bah moi, je pense que c'est parce qu'on est désensibilisé de la politique parce qu'on nous concerne vraiment pas. Et après, au fur et à mesure, bah, on commence un peu entre guillemets à s'en foutre, quoi. On s'y intéresse pas vraiment et du coup, c'est à partir de 25 ans qu'on se dit que peut-être on devrait voter. Moi, je pense que c'est ça, on est désensibilisé.
Il y a aussi un dégoût de la politique qu'on voit un peu en ce moment. C'est-à-dire que les gens, voilà, ils voient ceux qui font pour eux. On a tendance à penser que ceux qui choisissent, c'est des élites, donc c'est quelque chose d'inaccessible, que c'est des pourris avec toutes les affaires qu'on a entendues. Enfin, voilà. Et je pense que ça joue aussi, c'est-à-dire qu'on se dit qu'au fond, notre vote, surtout si on est jeune, il n'est pas important. Parce que les jeunes, on a aussi quand même tendance, il faut le rappeler, à sous-estimer leur opinion par rapport à ceux de personnes plus âgées. Enfin, quelqu'un de vieux, on va dire, oui, il est plus sage, il sait plus les choses, il a plus vécu, il faut l'écouter, lui, sa voix vaut deux fois plus que celle d'un jeune.
Une forme d'autocensure.
Aussi, comme on en a parlé avec les filles.
Et alors, sur quel sujet, justement, vous pensez que vous aimeriez prendre position et qu'on ne vous demande pas assez, peut-être, votre avis, comme tu disais, Moussa? Et par exemple aussi, Théotime, tu disais qu'on pourrait voter, mais pas sur tout. Alors sur quel sujet vous pensez que vous avez un mot à dire et sur quel autre sujet vous sentez que vous êtes moins concerné?
Peut-être au niveau de l'école, déjà simplement. Je pense que c'est ce qui nous concerne directement. Et quand on voit Parcoursup, c'est un exemple. Bon, je pense qu'il faudrait que ce soit les profs et les élèves, ou je sais pas, mais trouver un truc, mais ouais, principalement les élèves, quoi. Parce que y a des choses qui nous concernent totalement et on n'y a pas accès du tout, quoi.
Les autres sur cette question, les sujets sur lesquels vous aimeriez vous exprimer et que vous n'avez pas.
C'est personnel, hein, mais j'aimerais bien pouvoir m'exprimer sur tout ce qui touche n'importe quel citoyen français. Après, sur l'éducation, ça nous touche plus directement que la retraite, comme je le disais.
Après, moi, il y a quelque chose qui me fait peur quand même, c'est la question de l'environnement. C'est-à-dire que nos parents, ils s'en sont pas vraiment préoccupés. Enfin, les générations d'avance s'en sont pas vraiment préoccupées. Et en fait, ils vont nous laisser quelque chose. Enfin, moi, je pense que ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on doit avoir parce que l'environnement, c'est hyper important, quoi.
Ça aussi, on a plus tendance, du coup, à négliger la voix de ceux qui viennent de voter, qui sont nouveaux, qui ont 18 ans, alors qu'au final, c'est eux qui vont vivre dans le monde dans lequel c'est les adultes, on va dire, qui votent.
Ouais, même pour les retraites, au final, c'est vous les futurs travailleurs. C'est vous, enfin, bientôt, vous allez aussi payer. Enfin, vu qu'en France, c'est un système solidaire, les jeunes contribuent à la retraite des plus âgés. Et les réformes qui sont votées maintenant, c'est aussi les réformes du futur, pour vous, futurs retraités, pour nous, futurs retraités. Puisque...
Je disais ça parce qu'on a l'impression que c'est loin, mais vous avez raison. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que les jeunes, en fait, devraient avoir une voix même plus importante parce que c'est eux qui vont subir tout ce qui va se passer plus tard, quoi. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir une voix égale, mais c'est aussi une opinion que quelqu'un pourrait avoir.
Un octogénaire n'est pas très concerné par des réformes qui vont limiter les droits à la retraite, par exemple. Il a un droit de vote, il exerce. Vous en subirez beaucoup plus les conséquences.
Est-ce que quelqu'un veut piocher une question? On a peut-être évoqué certains thèmes, mais pas de pression, petite lecture tranquille.
Les jeunes ne s'expriment que par les réseaux sociaux. Vrai ou faux?
Les réseaux sociaux.
Est-ce que c'est un moyen d'expression, déjà?
Oui.
Un grand moyen d'expression, je pense. Puis, est-ce qu'ils s'expriment que par là? De plus en plus, je pense. C'est ancré de plus en plus. Les jeunes, dès, j'ai vu, 8 ans, 9 ans, déjà, en téléphone, réseaux sociaux. Et je pense que ça s'ancre de plus en plus, donc oui. Et c'est presque dangereux, j'en parlais tout à l'heure, par rapport aux relations. C'est...
Relations entre filles et garçons.
Oui, relations filles et garçons. C'est presque dangereux. C'est-à-dire que c'est que des interactions virtuelles. Et voilà, quoi. Ça emmène à plus de relations humaines. C'est un peu spécial.
Mais par rapport à l'expression des lycéens, je trouve qu'ils distribuent quand même beaucoup de tracts et de feuilles informatives à l'entrée du lycée, par exemple, comme à Saint-Charles.
C'est qui distribue les...
C'est pas des lycéens.
C'est pas des lycéens.
C'est pas des lycéens, mais par contre, les lycéens ont un droit d'affichage dans les lycées. Ouais. C'est obligatoire. Les proviseurs sont obligés de laisser des zones pour afficher ce que les lycéens veulent. Dans la loi, on n'est pas obligé de faire une demande préalable, mais c'est quand même plus poli. Et on a même droit d'exprimer une opinion politique. Il faut juste pas que ce soit du prosélytisme, quoi.
Mais après, pour répondre à la question, que par les réseaux sociaux? Non, je pense pas, c'est un peu extrême. Bien évidemment, on communique à l'oral, comme maintenant d'ailleurs, ça le prouve. Et puis oui, de plus en plus, mais je pense qu'il y a aussi le téléphone, par exemple, c'est pas un réseau social. Il y a Atrium, le NT, les mails, on communique par tout ça aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, même si c'est de plus en plus.
Pour les auditeurs, il faut peut-être dire que ce que tu es en train de citer, Atrium, c'est la possibilité pour tout membre du lycée de communiquer avec tout autre membre du lycée. Les parents, les professeurs, les élèves, la direction. Donc c'est une espèce de forum permanent. Sauf qu'on choisit la liste de gens à qui on adresse un mail et qu'on est susceptible de recevoir une réponse. Vous avez vraiment l'impression que c'est un moyen d'expression, ça, au sein du lycée ?
Un moyen de communication.
Ouais. Un moyen de communication.
Mais sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose de très intéressant. Donc, j'ai deux amis qui font un TPE sur justement les réseaux sociaux, les algorithmes, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte, donc sur les réseaux sociaux, on cherche toujours via des algorithmes à anticiper ce que va faire l'utilisateur. Et donc, on remarque que si on s'abonne, par exemple, à plein de Mélenchon, plein de trucs de France Insoumise, au bout de quelques temps, on va voir que des propositions ou voir des gens de la France Insoumise. Et donc, en fait, l'opinion, va se refermer. Les gens ce qui est bien pour se forger une opinion, c'est d'avoir plein d'opinions différentes. Et après, si on change d'opinion, enfin qu'on commence à s'abonner à des personnes de droite, ça prend 6 jours avant que l'algorithme comprenne change des propositions qu'il fait.
Ouais, les algorithmes limitent le pluralisme sur les réseaux sociaux. On découvre un peu tout ça maintenant, c'est assez effrayant. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça effrayant.
Mais, mais votre réaction est salutaire. Donc, vous êtes conscient que vous avez besoin de vous forger un esprit critique. Est-ce que vous avez des propositions? Moi, j'ai entendu comme prof qu'il y avait une demande d'informations sur les partis politiques, par exemple. Est-ce qu'il y a de tout petits espaces dans les lycées pour vous former à ça? Ce sont les cours d'EMC, hein, d'éducation morale, citoyenne. Bien sûr, il faut aussi que les enseignants vous écoutent. Et il faudrait aussi que les programmes s'adaptent, parce qu'il y a malheureusement des programmes qui sont un peu figés. Est-ce que vous auriez d'autres propositions sur les lieux, les instances, les sujets à suggérer ?
Eh bien, les lycéens possèdent également le droit de se réunir. Donc les associations et les groupes de lycéens peuvent organiser des réunions d'information au sein du lycée.
Pour répondre à votre question... déjà, j'aimerais rappeler que les cours d'EMC, ils ne sont pas disponibles. Enfin, il y a certaines sections qui n'ont même pas de cours d'EMC, dans notre lycée en tout cas. Et ensuite, oui, la politique, l'histoire de la politique. On avait déjà vu qu'est-ce que déjà la politique, le politique, les politiques. Et puis, il y a toutes toutes les questions très actuelles sur l'environnement, comme on avait dit, sur l'avenir de l'éducation nationale, sur la montée des extrêmes en Europe et dans le monde.
Oui, et il y a aussi, comme lieu, il y a notre professeur, M. Potoudis, nous en parle, mais c'est plus pour l'économie sociale. On peut aller voir des... Je sais plus comment ça s'appelle. Pas des réunions, mais des conférences. Voilà, c'est ça que je cherche. Bon, des conférences. Et je pense qu'il y a donc... Il est possible d'aller voir des conférences pour la politique. Je pense que ça peut être intéressant. Et c'est gratuit pour la plupart. Enfin, pour la plupart. Il y en a qui sont gratuites et accessibles. Donc il y a ça aussi comme moyen, je pense, pour s'exprimer et pour comprendre.
Oui, mais ça... là, par exemple, on a la chance d'avoir un professeur qui nous propose ça. Mais est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? Et moi, je pense que le gouvernement, l'éducation nationale, devrait mettre en place plus de choses pour qu'on puisse s'exprimer sur ça. Et bon, après, je pense qu'ils pourront dire qu'il y a le problème de l'argent, que ça peut coûter cher de mettre en place tout ça. Après, j'ai pas vraiment réfléchi, je sais pas trop. Mais les lycéens sur la population française, ils représentent 1,5% de la population. Et je pense que c'est le pourcentage qui est le plus important pour l'avenir et pour nos sociétés futures. Donc pour 1,5% de la population, je pense qu'on peut mettre en place certaines choses et que je pense que c'est important et c'est indispensable.
Surtout qu'on parle depuis tout à l'heure des lycéens comme si c'était un groupe uniforme, mais il y a des lycéens qui sont issus de catégories sociales complètement différentes. Et dans certains, c'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres, déjà d'être au courant de la politique, d'être au courant des choix qui sont faits dans le monde, d'être au courant de comment on fait pour s'exprimer, d'avoir de lire. Enfin, c'est quelque chose à rappeler quand même. Les lycéens, c'est pas un groupe uniforme où tout le monde a le même statut. Et connaît les mêmes choses.
C'est vrai, donc tout le monde a le droit de voter, mais une minorité, entre guillemets, enfin, en tout cas pas une majorité, est informée, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va voter, mais on ne sait pas trop pourquoi, et c'est ça aussi le problème. C'est pour ça qu'il y a une grande partie d'abstention. Ça confirme aussi ce problème.
Ouais, on peut piocher une autre question.
Avons-nous suffisamment d'espaces libres pour nous exprimer ? Quels espaces aimerions-nous ?
Ouais, on en a déjà un peu parlé, mais peut-être, je sais pas, certains veulent rajouter quelque chose. Des espaces, ouais.
On peut revenir aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que ça peut être un espace par rapport à l'anonymat. Je pense que certaines personnes, en étant anonymes, sont beaucoup plus fortes et peuvent plus facilement porter leur opinion. Alors que si elles ne sont pas anonymes, elles peuvent avoir peur de lynchage ou qu'on les juge. Pour avoir une opinion différente des autres. Voilà.
Après, à l'inverse, il y a beaucoup de harcèlement. Il y a aussi beaucoup de harcèlement, mais c'est vrai que c'est pas mal.
Est-ce que pour vous, vous avez l'impression d'être plus à l'aise de vous exprimer quand anonymement ? C'est-à-dire, parfois, ça se fait peut-être en classe de répondre, de donner son avis sur quelque chose sans mettre... Le prénom, est-ce que vous avez l'impression du coup que vous avez plus d'espace pour vous exprimer, dire ce que vous pensez, si on ne sait pas qui vous êtes ?
Oui, je pense qu'on se sent moins influencé, Par exemple, pour les élections des délégués de classe, par exemple, c'est anonyme.
Ou même l'élection des présidents. Le présidentiel, c'est pareil. Enfin, tous les votes sont anonymes, quoi. Donc, de façon générale, je pense que... Oui, oui, c'est sûr. Si les votes sont anonymes, c'est pour plusieurs raisons. Donc, je pense que les réseaux sociaux, ouais, c'est vraiment bien que ce soit anonyme.
Après, oui, du coup, ça dépend des réseaux sociaux. Ça, quoi. Si on pense à Facebook et on a un profil, oui. On a quand même notre nom.
Non, c'est bien.
Ouais.
C'est sûr.
Il reste des questions ?
Oui.
À part si vous avez des choses à ajouter.
Le grand débat national, les gilets jaunes, nous sentons-nous concernés ?
Nous vous plongeons dans l'actualité brûlante.
Ben, en partie, on peut dire que les blocus, c'était pour manifester notre soutien, entre guillemets, aux gilets jaunes. Après, nous sentons concernés. Je sais pas, parce que je pense que les blocus, c'est surtout pour rater les cours.
Ouais, clairement.
J'ai envie de dire, on se sent concerné, mais dans le futur. Parce que ça va forcément nous concerner quand on sera plus grand. Mais pour ce qui est maintenant, pas vraiment.
C'est vrai. Après, on peut se sentir concerné selon... par exemple, c'est des gens de sa famille qui font les gilets jaunes, je sais pas. Après, bon... Ouais, je pense qu'on se sent pas tellement concerné en général.
Ouais, plus les parents ou même les adultes, enfin, pas vraiment nous, parce qu'on n'est pas... On a... Enfin, les enjeux qui en ce moment par rapport aux gilets jaunes, bah, c'est pas des enjeux qui nous concernent, nous. Et donc, bah, forcément, du coup, on n'a pas vraiment... On a peut-être un avis dessus, mais on n'a pas notre mot à dire dedans, en fait.
Et encore une fois, c'est encore un peu... Ah, ils sont jeunes, c'est moins important, on va dire, que ce qui se passe maintenant, ouais.
Après, je pense aussi que ça dépend aussi de notre statut social, de notre famille. Par exemple, si on vient d'une famille ouvrière ou d'une famille de retraités, bah, on peut être plus facilement touché par les gilets jaunes que si on est d'une famille de cadres, par exemple. Même si... avoir des exceptions.
Après, je pense que c'est quand même le climat d'insurrection qui, à la base, vient des gilets jaunes, qui a quand même permis de faire autant de mouvements aussi chez les lycéens, je pense. Enfin, je pense aux grèves, aux blocus, tout ça. Même si à la base, on n'est pas le droit de grève, c'est pas reconnu des lycéens, c'est pas reconnu par l'État. Il y a quand même eu énormément de manifestations, de blocus, tout ça. Donc, je pense que sans les gilets jaunes, le mouvement lycéen n'aurait pas eu une si grande ampleur. Sans forcément que les lycéens soutiennent les opinions des gilets jaunes.
Quand ces manifestations réclament l'augmentation des bas salaires, par exemple, vous vous sentez concerné ? Dire qu'il faudrait que le SMIC soit plus élevé, est-ce que ça vous semble quelque chose qui vous concerne ?
Bah, je pense que ça dépend tout simplement de où on se situera plus tard. Et alors, est-ce que ça nous concerne maintenant ? Oui et non. Dans le sens où si on est bas salaire, oui, ça nous concerne. Enfin, si on sera bas salaire, ça nous concerne. Par contre, si on gagne plus, bah, ça ne nous concerne pas. Donc ça, on ne peut pas vraiment savoir, je pense.
Ça dépend des familles.
Oui, après, moi, je pense que ça dépend de chacun. Enfin, si ça intéresse ou pas. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Je pense que c'est super important. Et c'est aussi important d'en parler. Parce qu'avec les médias et tout ça, on peut entendre un peu de tout et de n'importe quoi. Et enfin, moi, je pense que c'est quand même une question hyper importante.
Mais après, il faut aussi rappeler, enfin, je pense que la question, elle se pose aussi, on se sent plus ou moins concerné selon les établissements. Je pense que ceux qui sont en HEC ou à Polytechnique, ils ne vont pas s'inquiéter, en tout cas, pour le SMIC. Après, ils peuvent se sentir, ça peut les toucher, mais je ne sais pas. Et après, en lycée général, en section ES, je ne dis pas qu'il n'y a personne qui va toucher le SMIC ou que tout le monde va toucher le SMIC, mais c'est sûr que... Peut-être, j'en sais rien, mais on ne se sent pas touché de la même façon selon de quel établissement on vient.
C'est sûr qu'on se sent moins touché que ceux qui sont en ce moment en train de vivre avec un bas salaire. C'est évident.
Ou ceux qui font un pro et qui savent que dans un an, ils vont travailler pour un métier qui leur plaît, certainement, autour du SMIC.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Je pense qu'après cette heure de débat, on peut dire que votre parole compte, notre parole compte, et que vous avez des choses à dire, que vous savez dire les choses et que c'est bien de s'exprimer.
Merci au professeur Michel Potoudis. Merci également aux techniciens Benjamin. Et revenez quand vous voulez sur Radio Galère. Et merci aussi aux auditeurs, auditrices. Bonne fin de journée.